Alors, la séance s'intitule « La tuberculose est encore en augmentation » ou quelque chose comme ça. En fait, heureusement, il y a, comme vous l'avez vu, un petit virage, disons, un tout petit peu plus optimiste dans les données plus récentes de l'OMS. Et donc, bien que la morbidité et la mortalité associées à la tuberculose restent très préoccupantes, on a l'impression d'une inflexion qui va dans le bon sens. Elle est clairement bien en dessous de ce que l'OMS avait projeté. Elle est clairement bien en dessous de ce qu'on souhaite. Mais enfin, il y a un petit espoir à l'horizon. Pour l'éradication de la tuberculose, j'ai l'impression qu'on a encore un bon bout de chemin à faire. Vous voyez que cette tendance à la baisse en termes de diminution de l'incidence figure finalement dans les données qu'on a pour les 6 grandes régions de l'OMS. Donc de ce côté-là, plutôt une bonne nouvelle. C'est peut-être les données, disons, les plus rassurantes qu'on ait pour l'instant. Alors, qu'en est-il de ces nouveaux outils diagnostic pour la tuberculose? En fait, ce dont on va parler, ce sont d'abord les tests au gamma interféron. Je parlerai pour les tests au gamma interféron d'IGRA, hein, qui est en fait l'acronyme anglo-saxon pour Interferon Gamma Release Assays. Et donc, comme on le verra dans un instant, il y a en fait deux tests commerciaux qui sont le plus largement utilisés. Je parlerai de ces tests, non pas qu'ils soient tout à fait nouveaux, puisque en fait on les teste sur le marché depuis 2004 en pathologie humaine et que l'un d'entre eux existe depuis longtemps en pathologie vétérinaire, mais plus parce que leur utilisation pose quelques problèmes qu'on évoquera ensemble. Ensuite, et ça a été évoqué déjà hier, on dira deux mots sur les systèmes experts en termes de diagnostic rapide par PCR, par biologie moléculaire de la tuberculose. Ça, c'est vraiment le grand changement, la grande nouveauté, on va dire, de ces dernières années pour le clinicien, pour le diagnostic rapide de la tuberculose et pour, avec, disons, un intervalle de confiance raisonnable, l'identification rapide des sujets à risque d'avoir une tuberculose multirésistante. Et puis, on passera en revue quelques autres développements. Alors, si on regarde tout ça sur une échelle de temps, on voit qu'il s'est passé quand même pas mal de choses ces dernières années. On voit ici l'échelle de temps et vous avez donc les modifications de la microscopie qui ont été source de pas mal d'améliorations en termes de détection dans les pays à faible moyen pour obtenir donc une meilleure qualité de l'examen microscopique direct. Vous avez ici l'avènement donc des systèmes experts de PCR dont on a parlé il y a un instant et sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Vous avez comme projet en fait l'espoir de l'OMS et de toutes les personnes impliquées dans la tuberculose de pouvoir amener toutes ces techniques finalement au lit du malade ou directement là où se trouve le malade de manière à pouvoir poser rapidement par biologie moléculaire le diagnostic de tuberculose et identifier rapidement les résistances. Et puis, ce qui a été évoqué aussi hier, c'est donc la mise à disposition de toute une série de tests de biologie moléculaire pour l'identification génotypique de la résistance, ou des résistances plutôt, aux tuberculostatiques. Donc, quelques-uns de ces grands changements, les tests au gamma interféron, les progrès de la microscopie à fluorescence avec les colorations à l'oramine qui ont changé de façon quand même très, très impressionnante la sensibilité, disons, de la détection des bacilles avec une microscopie, disons, simple. Tous les systèmes de culture automatisée qui ont fait beaucoup de progrès ces dernières années et qui ont été donc cautionnés par l'OMS déjà en 2007, avec des gains de temps qui sont considérables quand même pour les cultures traditionnelles. On a un ordre de grandeur d'environ 90% des cultures qui sont positives dans les 2 à 3 semaines qui suivent l'ensemencement. Il est beaucoup plus rare d'avoir, comme on l'avait dans le temps, des cultures qui se positivaient à 6-8 semaines, voire parfois plus. Et puis, donc, toute la biologie moléculaire et les sondes d'amplification pour la détection de chacune des drogues responsables dans les tuberculoses multi- et ultra-résistantes. Ça, c'est un sujet qui a été très bien traité hier et sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui. Enfin, les systèmes XPER dont on parlera. Et puis, oui, ça, c'est ce qu'on a déjà évoqué. Alors, toujours sur une échelle de temps, ce qui finalement a changé, c'est qu'on passait de systèmes d'identification des mycobactéries par culture et même par des techniques donc de culture déjà assez sophistiquées et des résultats qu'on obtenait en 10 à 14 jours à maintenant des techniques qui prennent avec par exemple le système GeneXpert à peine 2 heures pour obtenir un résultat et on l'espère dans un avenir très proche la possibilité d'avoir une identification par biologie moléculaire des antigènes spécifiques du complexe tuberculosis en 25 minutes avec des dispositifs portables. Et puis on voit aussi les gains, les progrès assez considérables qui ont été faits en termes de sensibilité, puisque vous avez ici une échelle logarithmique qui montre le nombre de germes finalement qu'il faut avoir pour pouvoir obtenir un résultat positif. Et vous voyez que si on prend la culture liquide comme étant l'étalon or, ce qui peut peut-être se discuter, vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus avec les techniques d'amplification génique automatisées, on se rapproche de plus en plus du nombre de bacilles qu'il faut pour avoir une culture positive. En d'autres termes, on a un gain de sensibilité qui est assez extraordinaire avec les techniques de biologie moléculaire les plus récentes. Alors maintenant, donc, quelques mots sur les IGRA, sur ces tests au gamma interféron. Comment ils fonctionnent? Ben, finalement, disons, du point de vue de leur fonctionnement, ils sont très proches de ce qu'on connaissait déjà bien avec le test tuberculinique. Le test tuberculinique, en fait, était un test in vivo avec l'injection intradermique d'un extrait d'antigène, enfin d'une série d'antigènes du complexe tuberculosis, ou du moins, essentiellement ça, qui suscitait localement une réaction inflammatoire avec la production de cytokines. Et puis, on mesurait, en fait, de façon indirecte cette production de cytokines à travers la réaction qu'on mesurait au niveau de la peau. Ce qu'on fait maintenant, finalement, c'est de prélever les cellules qui sont immunocompétentes et qu'on mesure directement, donc in vitro, la production de gamma-interférons comme étant un marqueur lorsque ces cellules sont mises en présence d'antigènes spécifiques de la présence d'une immunité contre des mycobactéries du complexe tuberculosis. Comme vous le savez, vous utilisez certainement ces tests de façon régulière. Eh bien, il y a 2 tests sur le marché. Un test qui a été mis au point par l'équipe de Ajit Lalwani à Oxford et qui donc est commercialisé aussi par une firme d'Oxford en Angleterre. Et puis le deuxième test, le quantiféron, c'est celui-ci qui a des origines historiques plus anciennes et qui est maintenant donc commercialisé depuis pas mal de temps par Celestis en Australie. Alors, quelques mots sur ces tests, leur sensibilité, leur spécificité. Tout d'abord, donc, ce sont des tests qui ont évidemment une excellente capacité pour identifier les mycobactéries du complexe tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, Africanum et Bovis. Et puis, évidemment, leur énorme avantage par rapport aux tests tuberculiniques, c'est l'absence de réaction positive chez des gens qui ont été exposés à un BCG. C'est donc là qu'on a fait le plus gros progrès, c'est en termes de spécificité. Et puis, comme vous le voyez ici, il y a quand même quelques faux positifs qui sont bien documentés, notamment Mycobacterium cancer qui peut avoir une présentation clinique qui est très voisine de celle de la tuberculose, Mycobacterium marinum, qui est donc une maladie avec des facteurs de risque qu'on peut identifier par l'anamnèse sans trop de difficultés, Mycobacterium zulcai, qui est une rareté. Donc il y a quelques faux positifs quand même qu'il faut avoir à l'esprit. Ces tests en termes de sensibilité et de spécificité, ben ici vous avez une parmi beaucoup de méta-analyse qui compare finalement les 3 tests à disposition, donc le test cutané, sa sensibilité, le quantiféron et le test TB avec des intervalles de confiance. Ce qu'on voit, disons, c'est que très grossièrement, on a affaire à une sensibilité qui se promène aux alentours des 80%, avec une spécificité qui est variable entre les 2 IGRA. Vous voyez qu'on a des chiffres qui sont quand même meilleurs pour le quantiféron que pour le test TB dans la plupart des méta-analyses qui ont été faites. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est le bénéfice majeur de ces tests par rapport aux tests tuberculiniques. Alors, quelles sont les indications pour les IGRA? C'est essentiellement le contrôle d'entourage dans les pays où on fait le contrôle d'entourage, puisqu'il faut avoir ce luxe, en fait, si on peut le dire en termes de santé publique. Et puis, la détection de l'exposition et de l'infection tuberculeuse dans des groupes à haut risque, à nouveau, ça c'est une pratique qui est plutôt une pratique de pays développés, des pays qui ont de l'argent. Et puis, toute la détection de l'infection tuberculinique latente chez des sujets qui vont avoir un traitement immunosuppresseur ou qui ont une condition qui les conduit à avoir une immunosuppression, depuis l'infection VIH jusqu'à l'insuffisance rénale, terminale ou tout le contexte de la transplantation. Dans le contexte particulier du contrôle d'entourage, dans ce contexte-là, les IGRA, on l'a vu, sont plus spécifiques que le test tuberculinique et donc ils ont le grand avantage de nous permettre d'éviter de traiter des personnes qui auraient une infection tuberculeuse latente, qui auraient une fausse infection tuberculeuse latente qui n'est en fait qu'une ancienne vaccination par le BCG ou éventuellement une réaction croisée à d'autres mycobactéries atypiques. Dans ce contexte-là, toujours, on parle du contexte du contrôle d'entourage et de la recherche d'infections tuberculeuses latentes, les IGRA ont une valeur prédictive négative qui est élevée, c'est-à-dire que dans ce setting, en fait, le fait d'avoir un quantiféron négatif ou un test spot TB permet d'écarter raisonnablement le risque de survenue d'une tuberculose ultérieure chez des gens qui sont immunocompétents et essentiellement chez des adultes ou des adolescents. Donc on exclut de ceci les sujets immunocompromis ou les enfants de moins de 5 ans. Vous voyez ici une illustration en fait, d'un travail de Ronald Deal qui montre dans un contrôle d'entourage les croix qui correspondent aux personnes qui ont développé une tuberculose active parmi 954 sujets exposés à une tuberculose active et contagieuse. Et vous voyez que pour tous les cas qui avaient en fait une tuberculose active, on a un résultat de quantiféron qui était franchement positif, alors qu'un certain nombre de ces cas avaient en fait un test tuberculinique qui était négatif avec un diamètre de l'ordre un diamètre de 0 mm. Donc clairement, en fait, ici, une meilleure identification des sujets à risque et autrement rapporté. Ces données donc vous montrent ici le risque de progression vers une tuberculose active chez des sujets qui sont quantiférons positifs et négatifs, et vous voyez que la situation est beaucoup moins nette pour les patients qui ont eu un test tuberculinique et des résultats variables que vous voyez bien sur ce tableau. Donc, un bénéfice indéniable de leur utilisation dans les contrôles d'entourage. Maintenant, ce que les IGRA ne sont pas en fait censés faire, c'est le diagnostic de la tuberculose active. Alors j'en parlais avec mes collègues il y a un instant, moi je viens de la Suisse et en Suisse on a un gros problème, c'est qu'il y a eu un énorme marketing, surtout il y a quelques années et en particulier de la part d'Oxford Immunotech pour vendre en fait les IGRA comme étant des tests miraculeux de la tuberculose et surtout de la tuberculose active, ce qui est une grossière erreur bien entendu. Et donc on reçoit des téléphones de praticiens affolés en disant j'ai une patiente de 60 ans qui tousse depuis 2 semaines, je lui ai fait un quantiféron, il est positif, est-ce que je dois vous l'envoyer tout de suite pour l'isoler? Donc évidemment ça ne fait pas de sens, mais ça montre qu'il y a une grosse méconnaissance dans certains groupes de praticiens qui, ma foi, on n'a pas toujours le temps de lire toutes les recommandations et il y a une confusion autour de l'utilisation de ces tests. La deuxième chose, c'est que les IGRA ne doivent pas être faits de routine dans les check-up, parce que ça n'a pas de sens. L'idée générale derrière l'utilisation de ces tests, c'est que quand on fait un test quantiféron et qu'on recherche une infection tuberculeuse latente, eh bien, on sait pourquoi on la recherche et on veut à ce moment-là la traiter. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'apporter une nouvelle maladie, entre guillemets, chez des sujets qui n'avaient rien demandé. Et puis un gros problème, c'est aussi le suivi des employés exposés à la tuberculose, et en particulier dans le milieu médical, on s'est rendu compte que le Zigra posait un problème qui est celui d'un taux de réversion et de conversion spontanée lors du suivi longitudinal qui rendait ces tests difficilement utilisables et interprétables. Donc on les utilise au recrutement éventuellement si c'est opportun, et puis ensuite lors d'une exposition avérée. Voilà, alors je vais juste, vu que le temps passe assez rapidement, j'aimerais juste vous montrer une figure qui est donc basée sur le théorème de Bayes que vous connaissez bien, qui est en fait la base, disons, de la médecine fondée sur les preuves, ou du moins un des piliers sur le plan statistique, juste pour voir finalement comment ces tests, non seulement quand ils sont positifs, ne peuvent en aucun cas nous dire qu'il s'agit d'une tuberculose active, mais quand le test est négatif, avec les performances de ces tests, on va voir qu'il reste une probabilité qui est loin d'être négligeable d'avoir une infection tuberculeuse latente, voire même une infection active, le test ne faisant pas la différence. Alors vous avez ici un graphique qui nous montre ceci. Vous avez en bas la probabilité pré-test, ici la probabilité post-test, et vous avez donc les courbes de rapport de vraisemblance qui sont tracées avec les performances d'un quantiféron, une sensibilité à 80%, une spécificité à 96%. Donc ce test nous montre grossièrement ce qui se passe chez un groupe de patients qui aurait une probabilité, disons, d'exposition à la tuberculose qui est de l'ordre de 50 à 80%. Ça pourrait être des sujets âgés, ça pourrait être des sujets qui viennent de pays endémiques, ça pourrait être toute une série de patients que l'on voit dans notre consultation. Et donc la question est de savoir si un test négatif permet d'écarter l'infection tuberculeuse. Et vous voyez que quand on est dans cette fourchette de probabilité pré-test, ici entre 50 et 80%, eh bien même avec un test négatif, on se retrouve encore avec un risque ou une possibilité d'exposition à la tuberculose qui est de l'ordre de 20 à 40%. Donc dans des collectifs particuliers qui auraient ces caractéristiques, typiquement nos sujets âgés, par exemple, le test IGRA n'apporte rien en termes de positivité, puisqu'il nous dit que ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que les personnes âgées ont une forte probabilité d'avoir été exposées, et en termes de négativité de ce test, il ne permet en aucun cas d'exclure la maladie. Alors, on va sauter ceci. Et on va passer donc au deuxième pilier de ces nouveaux tests, les systèmes experts, avec la publication qui a fait le plus de bruit en 2010 par l'équipe de Katrina Böhm. Donc ces tests, beaucoup d'entre vous les utilisent certainement de routine, sont des tests d'une grande simplicité qui permettent de prendre des échantillons, essentiellement au départ des échantillons respiratoires, mais aussi des échantillons provenant d'autres humeurs, qu'il s'agisse de liquide pleural, péritonéal, voire de LCR. Et puis, on met ceci dans une cassette, et sans rentrer dans les détails de la technologie, mais la technologie est assez simple, en fait, la cassette est mise dans un appareil, sorte de boîte magique pour nous autres cliniciens, et en 1h45, vous avez deux informations. Vous savez si la personne en fait une infection à Mycobacterium tuberculosis, ou du moins un germe du complexe tuberculosis, et vous savez aussi si on a pu détecter une mutation du gène RPOB qui confère la résistance à la rifampicine, ce qui permet d'identifier des gens à haute probabilité de MDR. Alors, quelles sont les performances de ces tests? Eh bien, tout d'abord, du point de vue du laboratoire, ils sont très intéressants parce qu'on peut former des techniciens pour utiliser ces tests en très peu de temps. Leur niveau de complexité est infiniment moindre que celui d'une PCR traditionnelle. Ensuite, ils ont des résultats qui sont très intéressants. Vous avez des données ici qui ont été rapportées dans une revue relativement récente par Peter et collaborateurs, qui nous donnent une idée de la sensibilité, un petit peu moins bonne bonne que celle qui était annoncée dans le travail de Katharina Böhm. La spécificité qui est excellente pour des échantillons qui sont donc positifs à la microscopie, une sensibilité de 75% pour des échantillons qui sont négatifs à la microscopie, donc ce qui permet quand même de rattraper passablement de situations qu'on aurait ratées avec la microscopie, sensibilité qu'on peut augmenter avec un deuxième ou un troisième prélèvement. Et enfin, ces chiffres qui sont tout à fait intéressants pour la détection de la MDR. Attention, comme ça a été très bien souligné hier, en fait, la spécificité de ces tests n'est pas de 100% et leur résultat va dépendre beaucoup de la probabilité de résistance dans le collectif étudié. Et donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des rapports de faux positifs, de fausses détections de MDR qui ne sont pas ensuite confirmées par les cultures phénotypiques. Donc, vous avez comme, disons, limitation de ces tests, leur sensibilité limitée dans les échantillons qui sont microscopie négatifs. Et puis, un problème dans la détection et dans le suivi des patients, c'est que finalement, tant qu'on a du matériel génétique qui est présent, on va avoir des tests positifs, alors qu'il ne s'agit pas forcément de mycobactéries vivantes, donc en particulier au cours du traitement d'un patient, eh bien, les tests type gene expert vont rester positifs pendant une longue durée, le traitement peut-être, voire même après le traitement pour une période qui n'est pas déterminée, ce qui peut conduire en fait à ce qu'on pourrait appeler des faux positifs. Bon, ce ne sont pas vraiment des faux positifs, mais ça ne permet en tout cas pas d'attester de la réponse au traitement. Voilà, ces tests, donc, comme on l'a vu, ont des performances qui sont excellentes pour les échantillons respiratoires. Et puis, donc, il y a eu plusieurs revues qui prennent maintenant les données concernant des échantillons extra-pulmonaires. Et vous avez donc, enfin, extra-pulmonaires, vous avez ici encore le liquide pleural, mais sinon, les ponctions, les résultats de ponctions et d'aspiration de matériel provenant d'adénite tuberculeuse, le LCR, le liquide péricardique, le liquide péritonéal, et vous avez les données que l'on a actuellement à disposition concernant la sensibilité et la spécificité. Donc clairement, c'est un plus en termes de diagnostic rapide. Clairement aussi, ce sont les sensibilités qui nous montrent que ces tests ne peuvent pas être utilisés pour exclure la maladie, puisqu'on a des sensibilités qui sont beaucoup trop faibles pour cela. Les spécificités sont par contre, dans l'ensemble et en principe, devraient être excellentes. Donc, des tests qui nous font gagner du temps, mais qui ne sont pas encore tout à fait miraculeux pour le diagnostic instantané de la tuberculose. L'OMS, sur la base de ces résultats, a fait un certain nombre de recommandations. Elle recommande donc l'utilisation de ces systèmes experts pour et même à la place de la microscopie conventionnelle dans certains environnements quand les moyens à disposition sont limités. Il le recommande plus particulièrement aussi chez des adultes, chez des enfants et chez des sujets immunosupprimés. Clairement, il y a une promotion de l'utilisation de ces systèmes experts par l'OMS. Et puis, on recommande aussi l'utilisation de toutes les techniques d'amplification nucléaire et en particulier des systèmes experts pour la recherche de méningite tuberculeuse, étant donné la morbidité et mortalité très élevée qui est associée et la difficulté qu'on a fréquemment à confirmer ce diagnostic en pratique courante. Donc, des tests qui ont apporté un énorme bénéfice en termes de rapidité de détection de la tuberculose, dont la sensibilité n'est pas encore parfaite pour les humeurs, si on peut dire ça, qui sont autres que les sécrétions respiratoires, et une grande avancée avec des limitations qu'on doit connaître. Quelques autres tests que je mentionne très rapidement, parce qu'ils ont pour le moment, en tout cas, une contribution assez anecdotique au diagnostic de la tuberculose. En tout cas, pour le premier, ici en haut, c'est la recherche d'antigènes de la paroi de la mycobactérie, donc le lipoarabinomanan, que l'on peut retrouver dans l'urine, surtout des sujets HIV positifs qui ont un degré d'immunosuppression important et qui peuvent à ce moment-là nous aider dans un diagnostic rapide d'une tuberculose avec quelques faux positifs qu'il faut avoir à l'esprit. L'utilisation de ces tests dans nos pays reste relativement marginale. C'est peut-être quelque chose qui se développera, ça reste à voir. Et puis ceci, donc, je l'ai déjà mentionné, c'est le développement extrêmement intéressant et très utile des sondes spécifiques pour les tuberculostatiques, non seulement de première, mais de deuxième génération, voire de troisième génération, nous aidant à élaborer un traitement qui soit aussi adapté que possible pour les patients qui ont une tuberculose MDR ou XDR en attendant les résultats phénotypiques. Voilà donc l'avenir tel que les cliniciens et les experts le souhaitent, c'est d'aller de plus en plus vers des systèmes portables de diagnostic qui nous permettraient d'obtenir des résultats de PCR ou d'analyse moléculaire directement au lit du malade et d'avoir en même temps l'identification de toute une série de maladies qui sont souvent des co-infections, qu'il s'agisse de l'hépatite B, hépatite C, HIV, de manière à très rapidement pouvoir profiler le mieux possible nos patients et les traiter de la façon la plus appropriée. Voilà, donc je vais conclure là-dessus en rappelant donc l'utilisation des IGRA qui doit être selon les recommandations internationales et qui ne doivent pas être considérés comme des tests diagnostiques de la tuberculose active. Ces tests ne permettent pas de distinguer l'infection latente de l'infection active et ne permettent en aucun cas d'exclure la tuberculose, sauf dans des situations tout à fait particulières qu'on ne couvrira pas maintenant faute de temps. Et puis la contribution majeure des systèmes experts. Et ce qu'on souhaite, en fait, c'est vraiment que maintenant qu'on a ces techniques de diagnostic de biologie moléculaire et qu'elles peuvent être effectuées de façon simple avec une formation technique minimale, eh bien, il faut que dans les pays où la MDR ou les XDR est prévalente, on ait les moyens à disposition pour traiter correctement et rapidement nos patients. Je termine sur un graphique que j'aime bien toujours citer parce qu'il nous remet la tuberculose dans une certaine perspective. C'est un graphique qu'on avait fait avec Hans Rieder en prenant les données de la Banque mondiale et l'incidence de la tuberculose dans le monde. Et vous voyez qu'il est difficile d'imaginer en fait une variable biologique qui corrèle aussi bien avec l'incidence de la tuberculose que le Gross Domestic Product, qui est un très bon indicateur économique du niveau de développement économique d'un pays et de sa richesse. Donc vous voyez ici une très belle régression qui nous montre que la tuberculose, ce n'est pas seulement une maladie infectieuse, c'est aussi une maladie qui est un baromètre de notre société, qui est un baromètre de la situation politique et économique des pays dans lesquels les gens attrapent cette maladie. Et ceci permet de dire que, par exemple, le fait de doubler son GDP fait chuter l'incidence de la tuberculose de 40%, ou du moins est associée à une chute de l'incidence de la tuberculose de 40%. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à disposition.